la fontaine, le fleuve d'eau vive. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Tu es le feu et la charité, tu es l'onction de la grâce, c'est toi qui nous fais passer, proclamer la bonne nouvelle. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Repousse au loin l'ennemi, remplis-nous de la paix de Dieu.
Seigneur, mon Dieu, tu es présent au milieu de nous, c'est toi qui nous le révèles par ta parole. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'on peut lui demander, le Seigneur, dans sa grande miséricorde et sa bonté, va nous l'accorder. Nous t'adorons, Seigneur mon Dieu, présent, au milieu de nous et en nous. Et je te prie de prendre possession de mon cœur, de mon esprit, de mes lèvres, pour que je proclame hautement ta parole et qu'elle pénètre au plus profond des cœurs pour qu'ils soient transformés. Je te remercie d'entendre le cri de ma prière et de l'exaucer. Amen.
Amen.
Ce que je viens de faire une prière pour que vous puissiez être d'accord, puisque vous venez de dire « Amen ». Chez saint Paul, il est dit « Afin qu'on comprenne ce qui est dit, il faut parler dans la langue du peuple pour être capable de dire qu'on est d'accord avec la prière qui vient d'être formulée. » Quand on est réuni en groupe, c'est pas écrit ça, alors, c'est ma parenthèse. Quand on va prier ensemble, ne vous gênez pas de prier à haute voix, de bien articuler, de le faire en la présence de Dieu, pour que tout le monde puisse dire « Amen ». Et ici, il n'y a pas de voûte, là, mais d'habitude, on devrait être capable de faire percer la voûte. Tellement ce « Amen », là, il est d'une seule âme et d'une seule volonté, puis d'un seul esprit. Je veux vous introduire, bon, je m'aperçois qu'il y a plusieurs religieuses, que je pense bien que les laïcs, vous êtes au courant. Cette année, l'Église fait ce qu'on appelle un synode des évêques sur la parole de Dieu. Et ça va se situer du 5 au 26 octobre à Rome. Les évêques du monde entier vont se réunir durant tout ce temps-là. Je veux vous lire un extrait de ce texte, très court. Le texte n'est pas court, il est très long, c'est un document. Mais un texte très court que j'ai extrait pour vous donner une idée de la pensée de l'Église, donc la pensée du Seigneur à travers son Église. Le texte d'Hébreux 4, 12, 13, ce fameux texte d'Hébreux 4, il est suivant. « Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi n'y a-t-il pas de créature qui reste invisible devant elle. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » C'est le premier texte que le document cite. Le deuxième est celui d'Isaïe 55, 10, et 11, versets 10 et 11. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain comestible, de même, la parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce que je voulais et réussi sa mission. » Alors, voici le texte de Rome concernant cela. Ces deux textes, et d'autres encore, affirment l'infaillible efficacité de la parole de Dieu. Je vais me servir tout au long de cette journée de la parole de Dieu. Comment comprendre cette efficacité de la parole de Dieu? Certains chrétiens néophytes attribue à la lecture du livre sacré une valeur magique. Je fais une parenthèse. Regardez bien ça. On va demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Ah bon? La lampe du corps, c'est l'œil. Ça va, là. Ce que je veux vous dire, il y a une méthode qui a été étendue en beaucoup d'endroits, même dans des pays étrangers, qui est l'ouverture de la baie Boisard. Mais ça, c'est la façon magique de vouloir avoir des réponses tout de suite, tout de suite. Mais ce n'est pas ça le don de prophétie. Dans les groupes de prière, quand la prophétie doit se manifester, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui communique à l'âme des paroles qui sont faites spécifiquement pour le groupe qui est présent. Alors, certains chrétiens néophytes attribuent à la lecture du livre sacré une valeur magique sans qu'il y ait un engagement spécifique et personnel de responsabilité. En réalité, la parole de Dieu déploie son efficacité, comme l'affirme la parabole du semeur, lorsque tous les obstacles sont éliminés et qu'existent les conditions pour que la graine de la parole puisse fructifier. J'ai tenu à vous lire ce texte parce que je trouve qu'il est important, parce que je vous parlerai de la parabole du semeur ainsi que la vigne, la parabole de la vigne. Pourquoi? Pour nous faire entrer dans cette idée importante de s'unir à notre Seigneur et à sa sainte volonté. Je pense que vous êtes tous des âmes, des cœurs qui désirez servir le Seigneur, le faire connaître, le faire aimer. Et ouvrez bien vos oreilles et vos cœurs pour entendre pourquoi je me suis servi, ou que je veux me servir, de la parabole du semeur et de la vigne. Cependant, je veux vous faire entrer dans l'idée que la parole de Dieu, elle n'est pas une parole d'homme. Saint Ambroise, qui était évêque de Milan, vient dire ceci. Pourquoi ne pas revenir au Christ Jésus, parler avec le Christ, écouter le Christ? C'est à lui que tu parles quand tu pries. C'est lui que tu écoutes quand tu lis les divines écritures. La parole de Dieu est quelque chose qui contient en soi la vie éternelle. Elle est votre vie, et c'est par elle que vous vivrez de longs jours sur la terre, dont vous allez prendre possession, en passant par le Jourdain. On trouve ce texte dans le Deutéronome. La parole de Dieu se fait proche de nous. La parole est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. La parole, que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, sur tes lèvres et dans ton cœur. Entends la parole de la foi que nous prêchons. C'est Saint Paul. La parole de Dieu, elle est éternelle. Mais elle se fit temporelle. Elle se fit dans le temps, en Jésus. Homme comme nous, le Verbe se fit chair et habita parmi nous. Saint Ignace d'Antioche vient nous dire, le Verbe sortit du silence, du secret, et vint parmi nous. La parole de Dieu, porte donc un nom. Elle s'est révélée, avec un gros P, personne, une personne. Le miroir de Dieu, l'image du Dieu invisible. Je voudrais vous faire saisir l'importance de cette parole que je vais vous proclamer. Ce n'est pas une parole d'homme. Quand notre Seigneur vient nous dire « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », on trouve cette parole dans Saint Jean au chapitre 15. Cette courte phrase, elle vient de la vigne, de la parole de la vigne, du tronc et des branches. Et pour que la branche porte du fruit, il faut qu'elle soit unie au tronc. Il faut qu'elle tire sa sève du tronc. Pour que l'âme porte du fruit, il faut qu'elle soit unie à Jésus-Christ, que sa parole demeure en elle et qu'elle demeure en sa parole. Cette parabole se joint admirablement bien avec la parabole du semeur. Pour que la parole demeure dans le cœur et porte du fruit, il faut que l'âme fasse le ménage et enlève les obstacles. Peu importe notre âge, peu importe dans l'état où nous sommes, nous avons besoin de faire un ménage. Les dames, vous le savez, je pense qu'au moins une fois par semaine, vous vous organisez pour faire le ménage et enlever la poussière. On n'est peut-être pas aussi entreprenant pour faire le ménage dans notre cœur. Regardons notre cœur comme étant une terre. Regardons notre intérieur comme étant l'endroit où Jésus est rentré à la synagogue pour dire « Je veux en faire une maison de prière. » Rentrons au-dedans de nous-mêmes pour se rendre compte que le Père est là, dans le secret, et qui nous demande de fermer la porte pour qu'on puisse prier le Père. Je vous situe au même endroit pour la parabole du semeur. La semence de la parole, elle arrive par nos oreilles et rentre dans notre cœur. Comment se fait-il qu'on entende souvent des paroles de Dieu et qu'on ne voit pas de fruits au bout? La parabole du semeur vient nous dire, ben, il y a des raisons. Il y a différentes terres. Il y a des terres qui peuvent produire du 30, du 60, du 100 pour 1. Le 1 peut être l'équivalent d'une seule parole entendue et qui produit du 100%, du 60 et du 30. Mais comment se fait-il que dans notre vie, il y a des choses qui changent pas facilement? La parole qui tombe dans notre cœur doit produire du fruit. Écoutez bien ça, vous allez voir comment c'est merveilleux. Jésus s'est mis une fois de plus enseigner au bord du lac. Et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac et toute la foule était au bord du lac sur le rivage. Il faut croire que les gens avaient soif, hein? Ils avaient faim. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, Ça, c'est un mot qui revient fréquemment dans les évangiles. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. Et le Seigneur donne les différents. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin. Vous la connaissez, cette parabole. Vous l'avez entendue maintes et maintes fois. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux. Et il n'y avait pas beaucoup de terre. Mais rappelez-vous, là, en entendant ça, c'est toujours la terre de votre cœur. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et faute de racines, il a séché. Il ne peut pas produire. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé et il n'a pas donné de fruit. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. En poussant et en se développant. C'est l'idée de la progression dans la vertu et dans l'exercice des dons. Rappelez-vous de ça. Pour progresser dans la vertu, qui que nous soyons, et si nous voulons que le Saint-Esprit se serve de nous comme instrument, il est important de regarder dans la terre de notre cœur s'il n'y a pas un ménage à faire, un bon ménage. Et notre Seigneur, il dit, les grains qui sont tombés dans la bonne terre, ben, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant. Ils ont produit du 30, du 60, du 100 pour 1. Et là, Jésus dit ceci, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Ça parle bien d'écouter. Quand il resta seul, ses compagnons, ainsi que les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Et Jésus leur disait, « C'est à vous qu'a donné le mystère du royaume de Dieu. » Écoutez bien ça. Comment c'est important. « C'est à vous qu'a donné le mystère du royaume de Dieu. » Mais à ceux qui sont au dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Et là, il leur dit, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le Seigneur vient ici nous donner une clé pour mieux saisir comment entrer dans les Écritures et dans le mystère de sa parole. Et là, il arrive, puis il leur explique la parabole. Ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée, quand ils entendent l'idée de l'écoute, quand ils entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais n'ont pas en eux de racines. Ce sont les hommes d'un moment, quand vient la détresse, ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ceux-là entendent la parole. Il l'accueille, il apporte du fruit, 30, 60, 100 points. J'ai voulu vous la lire pratiquement au long pour vous faire comprendre que pour que la parole de Dieu dans nos cœurs produise du fruit, il faut regarder nos attaches. Je vais relier ça à « Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux leur appartient. » Dieu est présent. Cette idée des attaches, de différentes attaches, parce que certains pourraient dire « Mais moi, j'observe tous les commandements de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Et pourtant, si on veut entrer dans une union intime avec notre Seigneur, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se révèlent en nous, il faut vraiment faire un nettoyage au fond de notre cœur et de notre esprit. Par exemple, il s'agit que j'ai gardé pendant des années une rancune à mon cœur. Puis je me demande toujours comment ça se fait que j'ai tant de difficultés à prier, que j'ai tant de difficultés à accueillir l'épreuve. C'est qu'en arrière, il y a cette rancune qui n'a jamais été corrigée, pardonnée à la personne. Je vous compte, je me sers de ça, mais j'ai des faits en masse pour le prouver. Des gens qui en sont venus malades et pourtant qui fréquentaient les sacrements, qui lisaient leur chapelet, puis qui s'efforçaient d'être bien dévoués. Mais elle, je veux rien savoir d'elle. Puis ça a duré des années. Quand on parle de notre Seigneur qui vient nous dire « Demeurez en mon amour, demeurez en moi. » Et il ajoute « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. » Toute l'idée de faire le nettoyage, d'enlever les attaches, pour ça, il faut vraiment supplier le Seigneur qui vienne nous éclairer. Dieu, il est lumière. Mais Dieu est présent en nous. Il est au milieu de nous. Mais c'est la foi qui nous l'enseigne. C'est pas une question de sentiment. C'est la parole qui vient nous dire que Dieu vit en nous, qu'il est présent en nous. Il faut le laisser travailler. Les attaches mettent des obstacles à son œuvre en nous, cette œuvre d'union. Vous avez dû remarquer qu'il y a des saints qui avaient une soif de ne plus faire qu'un avec notre Seigneur. Et ils se battaient à mort contre leur vieil homme. On a tous le vieil homme avec nous. Je dirais pas la vieille dame, là, mais le vieil homme, parce que Saint Paul, il va parler du vieil homme. Mais on a en nous ces attaches profondes, ces tendances qui divisent la personne en deux, le vieil homme puis l'homme nouveau qui veut transparaître. Comment ça n'est pas facile pour chacun de nous de rester bien debout et d'être unis à notre Seigneur. Quand je vous parle que les attaches font des obstacles à l'union à notre Seigneur, je vais prendre un exemple. Vous entrez en la prière. Vous arrivez de votre travail où vous avez eu beaucoup de choses à faire. Vous voulez prier. Et voici que se présentent à vous toutes sortes de distractions durant votre prière. Saint François de Sales appelait ça des mouches. Il faut pas s'en occuper. Mais les mouches viennent pareilles. Puis vous savez où courent les mouches. C'est curieux. Les mouches viennent révéler nos attaches. Prenez le temps de regarder dans votre prière. Vous n'êtes pas capable d'être tranquille, en paix, pour parler à notre Seigneur un cœur à cœur, il vous arrive toutes sortes de distractions. Ma soupe, hein, que je vais préparer, ou bien mon jambon que je veux pas qu'il brûle, vous avez toutes sortes de choses qui peuvent se présenter comme ça. Ou encore, une altercation que vous avez eue avec une personne, puis vous êtes resté bloqué avec ça. Il faut regarder. Les attaches nous révèlent pourquoi on est si distrait dans la prière. Si vous voulez être libéré de toutes ces distractions, c'est le même phénomène de regarder où sont mes attaches. Dans nos attaches, il y a ce à quoi on tient le plus. C'est pas péché. Les attaches sont pas péché. Mais, ils nous empêchent de nous unir intimement à notre Seigneur et de pouvoir vivre en paix au fond de notre âme. En rapport avec ça, je veux quand même vous lire en Saint-Jean le vrai cep. Parce que c'est en liaison étroite avec la parabole du semeur. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. J'espère que vous avez un peu d'imagination pour voir une vigne, qu'est-ce que c'est. Vous avez dû en voir à la télévision des grandes traînées de vignes, des grandes rangées de vignes. Quand il vient dire que lui, Jésus, il est le sceptre, c'est le tronc. Le Père, il est le vigneron. Et il vient dire, tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, le Père le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la façon qu'un pommiculteur travaille à l'automne. Ces pommiers, il les émonde. Si le pommier pouvait parler, il crierait probablement « aïe aïe ». C'est les épreuves. Mais il n'y a pas à le faire. Mais nous, quand il vient nous parler qu'on fait partie des sarments, c'est que à des branches, parfois juste dans le coin, une petite pousse de rien, mais qui est inutile. Le vigneron ou le pommiculteur, il va vouloir le couper. Dans nos vies, le Seigneur permet, par les événements, par les personnes, et même par nous-mêmes, qu'on soit émondé. Présentement, en entendant la parole, vous êtes émondé. Aussi curieux que cela paraisse, le Seigneur, il dit, « Émondé, vous l'êtes déjà, grâce à la parole que je vous ai annoncée. » Et lorsqu'on annonce la parole, qu'on la proclame, elle vient émonder notre cœur. Elle vient faire comme un petit ménage, un petit nettoyage, pour enlever ce qui devrait être enlevé. Ce qui est important, c'est qu'on se mette devant Dieu, puis qu'on dise au Seigneur, « Donne-moi la grâce de pouvoir découvrir et de reconnaître ce que je dois changer. » Je vous parle pas de ça pour rien. Si vous voulez qu'explosent les vertus et les charismes dans un groupe de prière, il faut passer par ce chemin de la purification. Il faut, dans son cœur, être décidé à une vraie conversion. Par exemple, une personne qui a une grande difficulté à maîtriser sa langue, elle peut faire un tort énorme. Grâce à la parole que vous avez, qui vous a été annoncée, vous êtes émondé. Dans un autre texte, il est dit, vous êtes purifié. L'épreuve purifie, la parole entendue et accueillie purifie. Elle vient comme une grâce du Saint-Esprit pour transformer notre cœur. Quand je vous ai dit au début la parole du Seigneur, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire de bien. » On n'en est pas tellement convaincu. C'est une grâce qu'il faut demander au Seigneur que sans son aide, sans sa grâce, c'est vrai qu'on peut rien. C'est quand on se cogne le nez dans différentes situations qu'on découvre comment on peut être limité. Mais grâce à Dieu qui intervient dans nos vies, il vient, par la grâce du Saint-Esprit, nous transformer. On ne peut pas rien s'attribuer de bien et de bon, si ce n'est à lui seul. Même quand dans le mouvement charismatique arrivent des merveilles, des charismes qui se manifestent, on ne doit rien s'attribuer, mais rendre grâce au Seigneur et tout lui attribuer. Dans le texte du vrai sceptre, en Saint Jean, il parle énormément de la demeure, de demeurer. Demeurez en moi comme moi en vous. L'idée de demeurer en moi comme moi en vous, c'est l'idée débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre cœur et votre esprit, pour que toute la place soit faite à notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la place soit faite au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, une personne qui est très délicate à vivre avec. C'est d'une subtilité remarquable. Il faut lui donner toutes les chances de pouvoir travailler en nous. C'est pour ça que c'est relié étroitement ce que je vous ai dit, la parabole du semeur. Regardez comment vous accueillez l'épreuve. Quand je parle de l'épreuve, vous savez, je parle même de la tentation. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes sujets à la tentation. Dieu permet ces sortes d'épreuves pour nous purifier, nous sanctifier et nous approcher de lui pour ne plus faire qu'un avec lui, ne plus faire qu'une volonté avec la sienne. Comment c'est important? Mais ce qui arrive, et vous l'avez vu dans la parabole du semeur, arrive la détresse ou la persécution, puis on oublie la parole, c'est-à-dire on grogne, on se plaint, on chiale, on peut chialer contre les autres, c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'une telle. Et au lieu d'accueillir la croix dans ma vie, qui va me purifier et qui va rendre beaucoup plus présent ce Dieu invisible qu'on aimerait bien toucher, qu'on aimerait bien voir, mais c'est par la foi que nous pouvons le voir. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit sans demeurer sur le cep, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'aurez. Pour bien vous faire comprendre, la parole de Dieu, c'est pas une parole mathématique. C'est pas une parole parce que je sens qu'elle est vraie. C'est une parole que j'adhère avec tout mon être. On appelle ça l'assentiment de tout son être. La foi est importante pour vivre cette union intime avec notre Seigneur Jésus-Christ. La foi en sa parole, la foi en ses commandements, la foi en l'Église. cette Église que Jésus-Christ a voulu. Alors, pour demeurer en Dieu, pour vivre en Dieu, même si on sent rien, même si on goûte rien, mais pour en avoir la certitude, il faut regarder si on respecte bien les commandements de Dieu, si on respecte bien l'enseignement de l'Église. On rencontre des gens bien intentionnés, gentils, aimables, mais qui ont leur opinion sur l'Église. Mais savez-vous que l'Église, c'est nous tous? Avant Vatican II, on comprenait l'Église comme étant le pape, les évêques, les prêtres. Mais nous autres, on était l'Église à être enseignée, puis eux autres étaient l'Église enseignante. Mais depuis le Vatican II, toute cette idée a été chambardée pour venir faire bien comprendre que l'Église, c'est tous les chrétiens, tous, qui en font partie. Alors, il m'arrive que j'entends des gens dire « l'Église, l'Église », il demande toutes sortes d'affaires, mais il comprend pas qu'il fait partie de l'Église, premièrement. Mais c'est vrai que l'Église, qui d'une façon particulière enseigne, le Saint-Père, le Pape, puis les évêques, tous les évêques qui enseignent en communion avec le Saint-Père. Notre cœur, si on veut l'unir au Seigneur, on doit regarder dans quelle mesure on n'est pas critique vis-à-vis l'Église. Parce que ça, ça empêche l'Esprit-Saint d'agir dans nos cœurs, puis même dans nos groupes. L'adhésion à ce que l'Église enseigne, c'est ce qu'on appelle la foi. Une certaine foi aveugle, parce que vous ne pouvez pas tout comprendre ce que l'Église enseigne. Saint Augustin disait, « Veux-tu comprendre? Crois! » Et il s'est inspiré d'un texte d'Isaïe pour montrer comment cette chose-là était importante. Saint Bonaventure a répété la même chose et Saint Bernard. « Si tu veux comprendre, crois. » Regardez que le tout petit, il cherche pas à analyser tout pour comprendre. Il fait confiance à son père, à sa mère. Le père a parlé, la mère a parlé, c'est ça. Cette foi est importante pour qu'on progresse dans l'union avec notre Seigneur. Donc, cette façon de demeurer en Dieu et Dieu en nous, que son amour demeure en nous et que nous demeurons en son amour, l'importance d'observer ses volontés. Rappelez-vous que notre Seigneur avait dit un jour, « Le Père est toujours avec moi parce que je fais ce qui lui plaît. » La vérité de la parole de Dieu vient nous dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent en nous. C'est une certitude de la foi que la Sainte Trinité demeure en nous. Il faut prendre conscience de ça. Cette petite chambre de notre cœur, il est là présent. Il veut être entendu. Il veut être écouté. Il veut être prié et loué. Ça se passe au-dedans, mais ça se passe au-dehors. Quand vous êtes réunis en groupe de prière, c'est l'importance de s'habituer à être attentif à ce que Dieu nous parle au-dedans. Il parle au-dehors par ceux qui nous entourent, puis il parle au-dedans. Il y a des textes qui disent que oui, il parle dans le silence, mais il parle aussi par des mots. Le don de prophétie, Saint Paul n'en a pas parlé pour rien. C'est un don mystérieux et que beaucoup de gens dans l'Église croient très peu. Parce que ce n'est pas facile d'écouter Dieu qui nous parle. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit l'importance de faire un ménage dans la chambre de notre cœur pour regarder s'il n'y a pas des attaches qui font des obstacles à l'écoute de la voix de Dieu, de sa parole. Au fond de notre cœur, Dieu nous parle quand, par exemple, nous sommes après lire la parole et qu'il nous arrive une inspiration comme ça. Rappelez-vous, Jean 23, un jour, on y avait demandé « Comment ça vous est arrivé quand vous avez décidé de faire un concile ?» Il lui a répondu « Ça m'est arrivé comme ça. » Il n'a pas dit « J'ai raisonné, j'ai pesé, j'ai sous-pesé, j'ai réfléchi. » Non. Il dit « C'est arrivé comme ça. » L'inspiration du Saint-Esprit, d'en prendre l'habitude d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire, est facilité quand le détachement, on fait du ménage. Je reviens là-dessus fréquemment, parce que je vous dis, c'est la pierre de touche pour que vous puissiez même vivre avec cette certitude au fond de votre âme, même si vous n'en avez pas le sentiment, que Dieu est présent. Puis que Dieu se révèle par votre vie de vertu. Dieu se révèle. Les gens vous le diront pas nécessairement. Mais c'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu qui rayonne à travers une personne qui vit de la vie de Dieu. Et plus on s'approche de Dieu par le dépouillement, le détachement, le renoncement. Je veux pas vous faire peur, là. C'est des Écritures, ça. Je vais aller plus loin. Regardez. Je parle dans le mouvement charismatique, puis en dehors du mouvement charismatique. Un des grands problèmes présentement, j'ajoute même en vie religieuse, je peux vous en parler, après 50 ans, je peux vous dire que c'est vrai. La grande difficulté de soumettre son cœur et son esprit à quelqu'un d'autre que moi. Les couples mariés, les supérieurs vis-à-vis les sujets, puis les sujets vis-à-vis les supérieurs, puis même, regardez dans la société, la grande difficulté d'accepter ce qu'on appelle le mot « autorité ». Ça sent pas bon quand on voit le mot « autorité », quand on voit le mot « soumission ». Et pourtant, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, Saint Paul et Saint Pierre, ils sont très clairs là-dessus, et c'est la parole de Dieu, il vient dire « soyez soumis les uns aux autres ». C'est curieux, hein? Cette soumission, c'est un détachement. C'est d'accepter, par exemple, que dans un groupe, il y ait une autorité, hein, qui est responsable du groupe, qu'on doit accepter humblement et modestement et simplement d'accepter que la personne qui nous parle elle mérite d'être écoutée. Vous avez remarqué dans l'Évangile, souvent le Seigneur vient dire, regardez la manière dont vous écoutez. Dieu se révèle à travers des personnes. Il se révèle pas seulement, et d'ailleurs rarement, d'une façon extraordinaire et miraculeuse, comme pour Lourdes, mais la façon ordinaire de se manifester, c'est par des instruments humains. Dieu vient nous parler. Toute cette attention à développer l'écoute pour voir qu'est-ce que Dieu a à me dire par ceux qui m'entourent. Vous avez peut-être trouvé que je m'étends là, mais ça touche toujours au même fond. L'union à notre Seigneur. Notre Seigneur, par sa parole, est venu nous dire qu'on faisait tous un même corps. Et vous savez que dans un corps, chaque membre a une fonction, puis c'est des membres qui obéissent à la tête. Hein? Si vous regardez votre propre corps, c'est votre tête qui vous mène, c'est pas votre bras, c'est pas votre pied, c'est pas votre oreille, c'est bien votre tête. Mais Saint Paul vient nous parler qu'on forme un seul corps. Donc, il faut bien admettre que dans un seul corps, il y a une seule tête. Et cette tête, c'est une tête de service. C'est une tête qui est présente à tous ceux qui entourent. Puis c'est ça, le respect qui est dû à une tête dans un groupe. La même chose. Tout ça concourt à mieux nous unir à notre Seigneur quand on accepte ça. Par tempérament, et je dirais par le fond que nous avons dans l'être humain, notre tendance est d'être très, très, très indépendant vis-à-vis les autres. Mais il faut apprendre à aimer Dieu à travers les autres, à voir Dieu à travers ceux qui nous entourent. Un moyen d'obtenir cette grâce, parce que c'est une grâce qu'il faut demander. Une grâce, c'est l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies pour être meilleur. Remarquez, pour voir Dieu dans les autres, ça prend une intervention, je dirais, miraculeuse du Saint-Esprit. Parce que juste essayer de penser avec notre tête que je vais voir Jésus-Christ dans ceux qui m'entourent, dans le pauvre, je vais avoir une certaine difficulté. Il va dire, « Hey, il sent beaucoup, ce pauvre. Il a bu plusieurs bouteilles, ce pauvre, puis etc. » Très difficile, ça. Une grâce, c'est quelque chose qui est gratuit de la part de Dieu, qui est communiqué au fond de notre âme. Il faut lui demander de voir Dieu dans ceux qui nous entourent, même notre propre famille. Je dis même notre propre famille, parce que pour apprendre à vivre comme un seul corps dans une famille, c'est une très grande grâce. Et Thérèse de Calcutta, qui s'est occupée des pauvres, des moribonds, des enfants, voyait Dieu à travers tout ce monde-là. Mais c'est par une grâce du Saint-Esprit. Quand on demande des grâces pareilles, il faut être sûr que le Seigneur va aussi nous demander la générosité de notre part. Parce que cette grâce qui est donnée gratuitement, le Seigneur va nous demander qu'on y en donne autant. Vous savez qu'il y a une difficulté de relation humaine au niveau de la charité, comment que c'est pas facile. Et pourtant, on va venir nous dire, et c'est vrai, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Mais ça, on ne le sent pas, on ne le goûte pas. Il faut donc demander cette grâce au Seigneur. Dans les groupes charismatiques, il est important de supplier pour avoir cette grâce, en même temps que la grâce du dépouillement de soi-même, d'apprendre à se détacher de soi pour être plus attentif à tous ceux qui nous entourent et être des vrais serviteurs et des vraies servantes à l'égard de ceux qui nous entourent. Ça, là, c'est la porte ouverte à l'explosion, pas seulement que l'éclosion, mais l'explosion des charismes et des dons du Saint-Esprit, et même des vertus. Vertu d'humilité, vertu de soumission, vertu de patience, face aux épreuves. Comment c'est important de demander cette grâce. Depuis le début, ce que je vous ai parlé, je vais essayer de le résumer, parce que je vois qu'il me reste à peu près quelques minutes. Je vous ai dit qu'il est important que la parole en nous fructifie. Pour cela, il faut faire le ménage dans notre cœur. Si nous voulons que le Seigneur entende nos prières et qu'il les exauce, cela suppose de se dépouiller de soi-même. Pour cela, c'est pas toujours facile. Il faut donc demander, Seigneur, donne-moi la lumière et donne-moi d'accepter que je puisse voir la lumière de ce que je dois changer dans mon cœur et dans ma vie pour être plus agréable et plus charitable vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Et pour pouvoir entendre la voix de ton Esprit Saint me parler au cœur et que je serve d'instrument pour tous ceux qui m'entourent et pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église. Accepter la purification dans son cœur, accepter la purification qui peut nous venir par les autres, accepter la purification qui vient par les maladies, les épreuves, les contrariétés, c'est un don de Dieu qu'il faut demander. Parce que le Seigneur peut pas refuser à quelqu'un qui supplie avec larmes pour mieux le servir. Ça marche? Globalement, faites vivre notre Seigneur au fond de votre cœur en ayant des cœurs pauvres. On touche à l'essentiel. Bienheureux les cœurs des pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Et quel est le royaume des cieux qui est à eux? C'est le royaume de Dieu. Il est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Donc, c'est dès à présent que cette présence de Dieu au fond de notre cœur peut se révéler parce qu'on a décidé de se dépouiller, de se décharger des lourds fardeaux qui nous traînent et qui nous empêchent de nous unir à notre Seigneur et de mieux l'aimer, qu'on puisse dire, Seigneur, je t'aime et je suis prêt à tout pour te servir. Amen.
Amen.
Viens, Esprit Saint, dans nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, rêve des pauvres, viens, dispensateur des Fossé à la douce. cet obstacle.